mercredi, je vous dis pas bonjour et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour tout le monde.
Et de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Martine, on commence avec Hôtel Transylvanie, le troisième volet.
Le troisième volet qui s'appelle aussi Des vacances monstrueuses.
Ça fait peur.
C'est une animation américaine de Glendy Tartakovsky. Alors, notre famille de monstres préférés embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un petit peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de tout le monde à l'hôtel. Alors, tout s'annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, des excursions exotiques, des séances de bronzette au clair de lune, figurez-vous.
Pour des monstres?
Mais oui, c'est des monstres,
ouais.
Forcément. Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Erika, la capitaine humaine du navire, et qu'elle a un secret. Je ne vous en dis pas plus, étant donné que je ne l'ai pas vue. Et vous non plus, c'est à découvrir ensemble.
Hôtel Transylvanie, le troisième volet à découvrir ce jour au cinéma, il est dès 18h, ou bien le mardi 14 août, dès 16h, on poursuit avec Marie Shelley en version originale sous-titrée Fanny.
La réalisatrice Saïfa Al-Mansour est connue pour son film Wajda, qui racontait les aventures d'une adolescente saoudienne qui cherche à s'acheter un vélo et par la même occasion à conquérir le droit de faire la course avec les garçons de son âge. Il lui a valu en 2012 de devenir la première femme à tourner un long métrage en Arabie Saoudite, qui était d'ailleurs officiellement le premier entièrement tourné et produit dans le pays. Ce coup-ci, comme dirait Roland, ça n'a rien à voir, a priori puisque la réalisatrice a choisi de parler dans son second film de Marie Shelley, la géniale auteure de Frankenstein à seulement 18 ans. Je dis qu'elle a choisi ce sujet, mais c'est plutôt elle qui a été choisie par les producteurs pour faire ce biopic, qui ne la tentait pas particulièrement au départ. Mais finalement, le parallèle entre son combat pour trouver sa place en tant qu'artiste femme saoudienne et les difficultés de la jeune écrivaine à faire publier son chef-d'œuvre au début du 19e siècle en Grande-Bretagne, où les femmes étaient cantonnées à la poésie ou au roman courtois. Le film commence donc en 1814. Mary Wollstonecraft Godwin a alors 16 ans et entame une relation passionnée avec le poète Percy Shelley, avec qui elle s'enfuit. Condamnés par les bien-pensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. 2 ans plus tard, le couple est invité à passer l'été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d'une nuit d'orage, à la faveur d'un pari, Mary a l'idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais. C'est un film britannique d'époque en costume finalement assez classique et peut-être un peu trop sage, mais Elle Fanning interprète le personnage très moderne de Mary Shelley à la perfection et confirme le talent et le charisme de la jeune actrice de 19 ans.
Mary Shelley à découvrir en version originale sous-titrée au cinéma. Il est ce jour dès 20h, le samedi 11 août également à 20h, ou bien le mardi 14 août à 20h15 au cinéma. Il est Darkest Minds à découvrir au cinéma. Il est Fanny.
C'est réalisé par Jennifer Yu Nelson, une des rares femmes à s'être fait un nom dans le cinéma d'animation, en réalisant Kung Fu Panda 2 et 3. Ce coup-ci, elle passe à la prise de vue réelle avec Darkest Minds Rebellion, en adaptant le best-seller d'Alexandra Bracken, paru en 2012, qu'elle a écrit à l'âge de 25 ans et dans lequel elle voulait parler du passage à l'âge adulte dans la période post-tragédie du 11 septembre, où se normalise la manipulation émotionnelle, notamment par les politiques. Le film se passe dans un futur proche, dans un univers dystopique mais pas si éloigné, où les enfants et les ados ont été décimés par un virus inconnu et les quelques survivants se retrouvent avec des pouvoirs psychiques incontrôlables. Ils sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils sont censés représenter pour la société et parqués dans des camps. Depuis que le virus l'a touché, Ruby est télépathe et capable de manipuler la mémoire d'autrui. En tant que telle, elle aurait dû être éliminée par les autorités sanitaires. Mais grâce à son pouvoir, elle a pu intégrer un camp réservé aux cas les moins dangereux. 6 ans plus tard, elle parvient à s'échapper et rejoint un groupe d'adolescents. Rapidement, ils se rendent compte qu'il ne sert à rien de fuir et qu'il faudra se rebeller pour reprendre le contrôle de leur avenir. Le film s'adresse plutôt aux ados qui pourront s'identifier aux personnages très bien incarnés par les jeunes acteurs, notamment Amanda Stenberg dans le rôle de Ruby. On l'avait déjà vu dans le premier Hunger Games, encore un film qui se passe dans un univers dystopique. Il y a quelques éléments qui font défaut à Darkest Mind, notamment de l'originalité pour arriver à se différencier de Divergente, ou du Labyrinthe, ou encore un peu plus d'engagement politique en accentuant le parallèle avec l'ère Trump, qui rendait le film encore plus ancré dans la réalité. D'ailleurs, une des actrices, Gwendoline Christie, dit, je cite, « Nous vivons des temps troublés, et du coup, parce que ces histoires dystopiques peuvent potentiellement devenir un jour notre réalité, elles trouvent un écho d'autant plus fort dans nos vies. » Fin de citation. Malgré ses défauts, le film est rythmé, donc on ne s'ennuie pas pour autant, ça reste divertissant, surtout donc pour un public jeune. Et c'est produit par les producteurs de Stranger Things, comme dit l'affiche à la bande-annonce.
À découvrir Darkest Minds en version française ce mercredi 6 août au cinéma. Il est dès 22h15, le vendredi 10 août à 18h et le samedi 11 août à 22h15 ou bien le mardi 14 août dès 18h. Fanny, on poursuit avec Les Indestructibles, le deuxième volet.
Une telle attente pourrait nous conduire à une grosse déception en découvrant ce nouvel opus, toujours écrit et réalisé par Brad Bird. Eh bien non, le réalisateur de Ratatouille et du Géant de Fer voulait prendre son temps pour nous offrir un film à la hauteur. On retrouve donc la famille de super-héros où on l'avait laissé il y a 14 ans. Monsieur Indestructible, Elastic Girl, Violette, Flèche, Jack-Jack et Frozone. Ils sont tous là. La famille est réduite à vivre dans un motel, leurs derniers exploits n'ayant pas remporté l'unanimité dans l'opinion publique. Mais cette fois-ci, les rôles ont changé. Bob, alias Monsieur Indestructible, s'occupe du foyer, non sans mal, pendant qu'Elastic Girl court après les méchants. Comme les Indestructibles 2 débutent juste après les événements du premier film, l'esthétique demeure la même avec un univers rétro-futuriste, mais elle a été améliorée grâce aux avancées technologiques réalisées depuis. Elles ont permis d'obtenir un rendu plus proche de ce qui était voulu dans les dessins originaux. Le film atteint un très haut niveau de qualité d'animation, avec de très belles textures et lumières, de superbes décors. Les thèmes abordés ont eux aussi évolué avec leur temps, que ce soit au niveau de la place de la femme ou du rapport aux écrans, deux enjeux, de notre société actuelle. S'il fallait reprocher une chose au film, c'est son manque d'originalité au niveau du scénario, la trame étant assez proche de celle du premier Indestructible, mais le feu d'artifice de gags et les scènes d'action palpitantes nous le font vite oublier, et notamment avec le personnage de Jack-Jack qui nous offre des scènes hilarantes. Brad Bird nous offre un deuxième volet des Indestructibles, dynamique et drôle, qui a les moyens de rivaliser avec le premier et qui ne devrait pas décevoir ses fans. Si Les Indestructibles 2 a une lecture plus politique, il garde l'âme du précédent, qui mélangeait à la perfection film familial et film de super-héros. Un film pour toute la famille, conseillé plutôt à partir de 8 ans.
Les Indestructibles, le deuxième volet, le jeudi 9 août à 17h30, le samedi 11 août à 17h30 également, ou bien le lundi 13 août également à 17h30, Mamma Mia, Where We Go Again en version française, Martine.
Cette comédie musicale américaine est réalisée par Ol Parker avec Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan et même Colin Firth, le beau Colin Firth. Alors, c'est l'histoire, c'est sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie qui rencontre divers soucis dans l'ouverture de son hôtel. Elle va trouver du réconfort auprès des amis de sa mère, Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le parcours de sa mère. Alors, comme le dit le titre, c'est reparti, c'est tonique, c'est plein de vitalité, avec des acteurs séduisants, c'est l'esprit des bandes-annonces. On ne peut pas en dire plus, on va le découvrir en même temps que vous.
Et en musique, avec la BO de Abba, forcément.
Ah bah oui.
Faut pas les oublier.
Oui, non, c'est ça qui fait le charme.
Mamma Mia, Where We Go Again, ce jeudi 9 août à 20h au cinéma. Elle est Fanny, Mission Impossible Fallout.
Ça fait plus de 20 ans que Tom Cruise incarne Ethan Hunt dans Mission Impossible et il aura fallu arriver au 6e épisode pour que la franchise renonce à un de ses principes fondateurs qui était de changer de réalisateur à chaque film pour renouveler constamment la forme. On retrouve donc derrière la caméra le réal du précédent épisode Rogue Nation, Christopher McQuarrie, qui nous offre la suite directe du précédent film et même la suite de tous les films de la série, puisque Ethan Hunt se voit confronté à son passé et aux retombées de toutes ses missions pour l'Impossible Mission Force. Le tout se déroulant en grande partie à Paris, à qui le réalisateur rend hommage. Je suis tombée sur ce résumé sur Internet, je cite, « Dans Mission Impossible Fallout, Ethan Hunt et son équipe vont devoir affronter les conséquences de leurs actions alors qu'une terrible menace nucléaire plane au-dessus du monde. Les espions parviendront-ils à sauver l'humanité une nouvelle fois ?» Fin de citation. Franchement, est-ce que c'est raisonnable de se poser la question ? Est-ce qu'on peut décemment émettre l'hypothèse qu'ils ne vont pas y arriver et que ça va être la fin du monde ? J'y crois moyen. Bref, quand on fait une longue série de films, il faut être capable d'innover, et pour ça, Tom Cruise veut aller toujours plus loin dans les exploits. Dans Protocole Fantôme, il escaladait le gratte-ciel le plus haut du monde à Dubaï. Dans Rogue Nation, il restait accroché à la porte d'un avion pendant le décollage. Alors dans Fallout, ce n'était pas une cascade qu'il fallait faire, mais toute une série. De la course-poursuite en hélico dans les canyons du Cachemire en Inde, au saut dans le vide en passant par un saut en parachute à très haute altitude. En plus, Tom Cruise fait ses cascades lui-même, ce qui ce coup-ci lui a valu de se casser la cheville sur le tournage en sautant entre deux immeubles à Londres, avec pour conséquence une interruption du tournage pendant plusieurs semaines. Le film est construit autour de scènes d'action grandioses, de quoi vous tenir en haleine pendant presque 2h30. Je cite, « C'est le genre de fun qui non seulement ne cesse de vous couper le souffle, mais qui rétablit votre foi en les blockbusters estivaux. » Fin de citation, révèle ainsi Entertainment Weekly. Le magazine Empire, de son côté, loue, je cite, « l'audace et l'intelligence de l'écriture qui en font un morceau de cinéma d'action étonnant. » Fin de citation, et conseille aux futurs spectateurs de, je cite, « prendre des médicaments pour le cœur et de bien se tenir. »
Mission Impossible Fallout, le jeudi 9 août au cinéma, il est dès 22h15, ou bien le lundi 13 août à 22h. Black Lanceman, Fanny, c'est pour la suite au cinéma, il est, c'est une avant-première en version originale sous-titrée.
C'est le retour du réalisateur de génie Spike Lee avec ce film inspiré de la vie de Ron Stallworth, le premier officier de police afro-américain à avoir infiltré le Ku Klux Klan. Il a publié un livre en 2014 qui retrace son parcours de tout premier inspecteur noir de l'histoire du Colorado Springs Police Department. À la production, on retrouve entre autres Jordan Peele et Jason Blum, réalisateurs et producteurs du très réussi Get Out. Dans le rôle de Ron Stallworth, on retrouve John David Washington, le fils de Denzel Washington qui a pas mal joué chez Spike Lee, notamment dans Malcolm X. Et dans le rôle de son collègue, c'est Adam Driver, que j'avais découvert dans la série Girls de Lena Dunham, où il est génial, mais on l'a aussi vu par exemple dans Star Wars. Donc on est en 78 à Colorado Springs. Le Civil Rights Act, qui interdit toute forme de discrimination, a été voté en 64, mais les mouvements de suprémacistes blancs comme le Ku Klux Klan restent actifs dans certains coins des États-Unis. Ron Stallworth intègre la police du patelin qui devient le premier officier noir américain du département de police locale, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité par les agents les moins gradés du commissariat. Et c'est là que ça devient invraisemblable. Ron Stallworth va infiltrer une branche locale du Ku Klux Klan pour en dénoncer les méfaits. En se faisant passer pour un extrémiste, il contacte le groupuscule dans lequel il s'intègre rapidement et monte les échelons, arrivant jusqu'à devenir le garde rapproché de David Duke, haut placé du KKK. Il exprime toute sa hargne raciste au téléphone avec d'autres membres et envoie un collègue blanc à sa place pour les réunions. Une histoire donc assez folle et intrigante, et en plus une histoire vraie. Comme vous l'avez deviné, le film est très militant, et en plus de nous faire réviser nos rudiments d'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis, on trouvera par-ci par-là des citations de Trump mises dans la bouche des suprémacistes blancs, rendant le propos du film très actuel. Parce que même si le Klan n'a plus autant d'ampleur, il existe toujours, et rien que ça, c'est flippant. Bref, un film à découvrir absolument qui a reçu le Grand Prix au dernier Festival de Cannes.
Black Lanceman, le vendredi 10 août au cinéma, il est à 20h. Skyscraper, Philippe, c'est pour la suite au cinéma, il est.
C'est le retour de Dwayne Johnson, hein, l'ancien catcheur, quelques mois après Rampage, où il se battait contre des monstres géants. Encore un film qui va à 100 à l'heure, hein, il est habitué, l'acteur de Fast and Furious, et où il va devoir également encore sauver plein de gens, même s'il en a déjà sauvé une partie des États-Unis dans le film Catastrophe San Andreas. Là, on le retrouve en Chine, dans la peau d'un vétéran de guerre, un ancien leader de l'équipe de libération d'otages pour le FBI. Il s'appelle donc Will Sawyer, il est maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels en Chine, donc dans la plus grande tour du monde. Il va être accusé d'avoir déclenché un incendie dans un immeuble. Le bâtiment est donc en proie aux flammes et il va être considéré comme un fugitif et un criminel justement par les autorités chinoises. Et il va avoir que quelques heures pour essayer de prouver son innocence, trouver les coupables, rétablir sa réputation et également sauver sa famille piégée dans le gratte-ciel justement où il habitait. Il va faire beaucoup de choses, hein, Dwayne Johnson. Un film qui fait penser un petit peu à La Tour Infernale ou à Piège de Cristal également, un mélange de tout ça, mais avec plein de gros effets spéciaux. Voilà, c'est du spectacle, hein, bien sûr, justement, un peu comme Dwayne Johnson, c'est un ancien catcheur, c'est un peu comme du catch, voilà, c'est du spectacle, tout est faux, hein, tout est fait avec des effets spéciaux, à retrouver donc au cinéma. Il est dans Skyscraper.
Skyscraper, le vendredi 10 août à 22h, Martin, on poursuit avec Parvana.
Une ravissante, une magnifique animation réalisée par Tora Tuomei, qui a reçu 3 prix au Festival d'animation d'Annecy en 2018. Et cela nous emmène en Afghanistan, sous le régime taliban. Parvana a 11 ans, elle a grandi à Kaboul, ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana va basculer à jamais parce que, sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, on ne peut plus ramener de l'argent à la maison et on ne peut même pas acheter de la nourriture. Alors Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste très déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Alors Parvana, c'est un conte poétique sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Il y a un graphisme clair et cette fable universelle se met à la hauteur des enfants avec à la fois gravité et tendresse. Il y a de la grâce dans la forme et beaucoup de sens dans le sujet.
Parvana, cette semaine, le dimanche 12 août dès 18h, Martine, on poursuit avec Ant-Man et la Guêpe.
C'est réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña et Michelle Pfeiffer. Alors après les événements survenus dans Captain America, rappelez-vous, Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope Van Dyne et le docteur Hank Pym lui confie une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date. Alors, avec un duo d'acteurs au top qui s'amuse autant que les spectateurs, des effets spéciaux bluffants, vous savez, agrandissant, rétrécissant, une succession de gags irrésistibles, il paraît que ce dernier né chez Disney est un super divertissement, encore plus réussi que le précédent, et basé en plus sur des valeurs de la famille et de l'égalité. Alors certains regrettent que l'intrigue soit assez banale et préféraient le premier. Bon, bah comme d'habitude, vous allez vous faire votre propre idée et restez jusqu'au bout, attention, restez jusqu'au bout du générique final, parce que là, il y a une surprise.
C'est bien de le préciser, Martine.
Mais oui.
Ant-Man et la Guêpe, le dimanche 12 août, dès 20h. Martine, on poursuit avec Au Poste.
C'est une comédie très noire et très loufoque, réalisée par Quentin Dupieux, avec Benoît Poulvorde, Grégoire Ludig, Anaïs Desmoustiers, Philippe Duquesne, et même la voix d'Alain Chabat. C'est dans un poste de police qu'il y a lieu une garde à vue, un tête-à-tête entre un commissaire et son suspect. Alors il y a de la tension, du suspense et de l'humour franco-belge. Le film récolte des critiques plus qu'élogieuses. Je vais les citer d'ailleurs. Un film génial, une irrésistible fantaisie policière, un de ces canulars absurdes et hilarants dont Dupieux a le secret. Mais certains s'inquiètent. On est forcé de se demander si ce non-sens n'est pas plus proche de la réalité que bien des documentaires. Il est donc très nécessaire d'aller voir ce film de plus près.
Au Poste, cette semaine, dimanche 12 août, dès 22h15. Fanny, on poursuit et on finit avec une avant-première, Le Vieux Fourneau.
Eddie Mitchell, Pierre Richard et Roland Giraud incarnent Pierrot, Mimi et Antoine, trois amis d'enfance de 70 ans, qui ont bien compris que le seul moyen de ne pas mourir, c'était de vieillir. Ils se retrouvent donc lors des obstacles de la femme d'Antoine, Lucette, qui avait caché une vieille histoire d'adultère à son mari, qui découvre ça et décide de partir régler cette histoire en Toscane, sans rien dire à personne. Pierrot, Mimi et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'au cou jouée par Alice Paul, se lance alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel pour une histoire qui s'était passée 50 ans auparavant. À l'origine, Les Vieux Fourneaux, c'est une bande dessinée scénarisée par Wilfried Lupano et dessinée par Paul Cowie, qui connaît un gros succès puisqu'elle s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Le réalisateur Christophe Duturon réalise ici son premier long métrage en adaptant les tomes 1 et 3 de la BD avec Lupano au scénario. Et on n'a pas vu le film puisqu'il sera présenté en avant-première avant sa sortie le 22 août, mais la BD est vraiment chouette, pleine d'humour et d'humanité, qui parle de la vieillesse mais toujours avec beaucoup de joie et de bienveillance. Il me semble que vous pouvez trouver la BD à la bibliothèque de l'Île-Dieu et venir voir le film au ciné-ilé pour savoir si l'adaptation est à la hauteur. En plus, avec ses acteurs, ça donne envie.
Le lundi 13 août à 20h pour Les Vieux Fourneaux, c'est une avant-première, on vous le rappelle. Merci Fanny. Rendez-vous en grande forme dès la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Et merci Martine, rendez-vous également en grande forme dès la semaine prochaine.
Tout à fait, à bientôt.